avant même l'arrivée de vos comiques à 5h25, on vous sert les meilleurs moments d'hier.
On a l'impression que la situation des blocus autochtones est en train de dégénérer. Notre ami journaliste Michel Jean a l'objectivité d'un journaliste. Et comme il est issu de la communauté de Mastoyache, au lac Saint-Jean, il comprend aussi les revendications des Premières Nations. La Première Nation, entre autres, de Wet'suwet en Colombie-Britannique et toutes les nations qui les appuient. Salut Michel!
Salut Martin, salut tout le monde.
Salut Michel, merci de nous parler ce matin. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent et qui comprennent pas ce que réclament les Autochtones qui manifestent. Si tu avais à résumer ça, tu nous dirais quoi, Michel?
Ben, ça part de la réclamation d'une communauté en Colombie-Britannique, mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est quand la GRC est intervenue sur le territoire. Et là, il y a eu une réaction qu'on a vue de partout au Canada, des communautés autochtones qui ont levé des barricades, etc. Et ça, justement, sur Twitter, cette semaine, j'écrivais qu'il y a des raisons à ça. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup de frustration et de sentiments de trahison chez les Autochtones qui durent depuis longtemps. Je donne un exemple, vite, vite, là. Moi, chez nous, au lac Saint-Jean, dans la famille, chez nous, la façon dont ça s'est passé, c'est que tout le monde vivait sur un territoire qui était aux passes dangereuses. Puis, à un moment donné, ils sont arrivés pour y aller. Puis, on avait utilisé la rivière pour descendre des arbres, la forêt, pour faire la drave. Et là, ils se sont fait dire, ben, reste à Pointe-Bleue, à Mastoyache maintenant. Mais personne ne leur a jamais demandé leur avis, leur a jamais rien dit. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés tout vite de vivre ailleurs. Après ça, il y a les pensionnats. Après ça, il y a toutes sortes de choses. Et depuis toujours, on négocie des ententes avec les communautés autochtones qui n'aboutissent jamais. Mmh. Alors, c'est comme si à un moment donné, les gens deviennent comme tannés. Quand ils arrivent à un événement comme celui-là, les gens sont surpris de voir que les Autochtones réagissent avec aussi vivement sur un événement comme celui-là. Mais tu sais, c'est comme quand quelqu'un t'a fait de quoi pendant longtemps, t'a pardonné plusieurs fois, mais c'est comme la foi de trop. Mm-hmm. Alors, il y a ce sentiment-là où les gens en ont plein leur casque, si je peux me permettre l'expression.
Oui, il y a un peu la goutte qui fait déborder le vase, mais as-tu l'impression que les manifestations pourraient aller un peu trop loin? Je pense que c'est la peur du public, là, en ce moment.
Ben, c'est sûr que là, on ne sait pas, évidemment, personne ne souhaite que ça dégénère.
Ouais.
Et personne ne souhaite non plus, à ce moment-ci, chez les communautés autochtones, que la police intervienne, parce qu'il faut dire aussi qu'un autre élément qui est important, c'est que la GRC, on le vit moins au Québec, hein, mais dans le Canada anglais, la GRC, pour les Autochtones, c'est un symbole très négatif, parce que ça a été créé en bonne partie justement pour policer les Autochtones à l'époque, et il y a eu plusieurs interventions qui ont été très dures de la GRC contre les Autochtones. Fait que quand on a vu les images dans la nuit des Autochtones, de la GRC qui ramassaient les gens de force, qui les amenaient, ça, là, ça a été comme quelque chose qui n'a pas passé non plus. Donc, si on en arrive avec la GRC qui rentre dans les communautés, moi, je pense que ça peut être quelque chose qui va laisser des traces.
Ouais.
Mais en même temps, les Autochtones sont aussi prêts à négocier. On l'a vu, on a entendu hier, justement, les chefs de la communauté en Colombie-Britannique qui disaient qu'ils étaient prêts à rencontrer Ottawa si la GRC sort du territoire. Donc, il y a une certaine ouverture. Mm-hmm. On verra comment les deux parties vont la prendre, là. Mais moi, je dirais que ce qui me surprend surtout, c'est que bien sûr, on n'a pas vécu tant que ça jusqu'à présent, en tout cas, de backlash anti-autochtone.
Non.
Parce que je pense que les Québécois, notamment, les opinions, les façons de voir les choses ont évolué. Les gens sont plus ouverts à ça aussi.
Maintenant. Oui, mais on le sait, une manifestation qui dérange personne, ça donne pas grand-chose. On le sait, mais de voir comme ça des denrées essentielles qui se rendent plus, des pertes d'emplois, t'as pas peur justement que les préjugés envers les communautés reviennent ou que ça fasse mauvaise presse?
C'est clair qu'il va y en avoir, puis c'est clair que c'est le risque actuellement, non, tu sais. Puis c'est pour ça que personne souhaite que ça dégénère maintenant. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu une crise, là, ça s'est réglé de la façon suivante. Les Autochtones ont reculé, puis après ça, OK, on va négocier. Mais il n'y a jamais rien qui aboutit. La seule communauté avec qui il est vraiment arrivé quelque chose, là, c'est les CRI. D'ailleurs, le gouvernement du Québec vient de signer une entente avec les CRI.
La paix des braves, entre autres, il y a quelques années. Puis là, la dernière entente, c'est la semaine dernière, je pense, qu'ils ont conclu.
Mais les CRI, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des décisions judiciaires qui ont forcé le gouvernement à s'entendre avec eux autres et leur donner un montant de dédommagement pour l'utilisation des rivières à la grande. Les barrages à la BG. Les CRI ont pris cet argent-là, là. Ils n'ont pas dépensé, ils l'ont investi. Puis si tu vas faire des affaires maintenant dans le Grand Nord, tu peux pas faire autrement que faire des affaires avec la Nation CRI. Ils ont la compagnie d'aviation, ils ont les compagnies de forage, ils ont les compagnies de plomberie, ils ont toutes les entreprises là-bas, ils génèrent. Puis c'est les CRI qui travaillent, puis les Blancs aussi qui travaillent là. C'est quand le gouvernement a des projets au Grand Nord, il va s'entendre avec les CRI. Ça, c'est un exemple de choses qui se font, qui peuvent marcher. Mais regarde avec les Inuits, là, chez nous, je veux dire, on négocie depuis que moi je suis jeune. Là. Il n'y a pas d'entente encore. Le plan Nord voulait se faire par les libéraux. Il n'y avait pas d'entente avec les libéraux là-dessus. Il y avait un projet de mine d'uranium dans le Grand Nord, dans une terres sacrées pour les Inuits chez nous. On n'en avait pas parlé aux Inuits. Alors, c'est un peu ça qui arrive. Alors, moi, je pense que maintenant, il va falloir que tout le monde se parle.
Michel, merci de nous avoir parlé. Puis la conclusion de ça, effectivement, c'est la discussion puis qu'on marche ensemble. Je veux que je veux plugger ton livre, Michel, parce que j'ai vu passer ton dernier roman qui s'intitule Coucoum. J'ai vu passer ça sur Twitter, puis même tu suggérais ça comme lecture pour nous aider à la compréhension de ce qu'on vit actuel, présentement, du contexte actuel. C'est ça, là, littéralement, là.
Oui, parce que Coucoum, le roman raconte en fait à travers l'histoire de ma famille. La sédentarisation forcée, la fin du mode de vie, comment ça s'est passé, les réserves qu'on voit aujourd'hui, là, comment c'est arrivé, puis quand tu lis ça, tu comprends les problèmes sociaux dans les communautés, la frustration et aussi la colère qui existe chez beaucoup d'Autochtones, parce que les gens ne le savent pas. Donc, en lisant ce livre-là, qui est un roman, dans le fond, on arrive un peu davantage à comprendre dans quel état d'esprit sont les nations autochtones aujourd'hui.
Puis en même temps, temps de crise, une histoire d'amour, c'est probablement la meilleure chose qu'on a à lire aussi.
Surtout quand c'est une histoire d'amour qui a existé pour de vrai.
Une
vraie histoire d'amour. Hey,
Michel, je t'embrasse, je t'aime mon ami, puis je nous souhaite que ça se règle le mieux possible pour tout le monde. Merci de nous avoir parlé, Michel.
J'ai une escomité, mes amis. Salut.